Donc, Éphésiens 1, à partir du verset 12. Ah, excusez, Philippiens. Je suis pas à la bonne page. Hein? Donc, Philippiens 1, verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe! De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Mais si c'est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez encore que je soutiens.
Quelqu'un a perdu des clés. En avant, sur le trottoir, c'est marqué « Métro et moi ». Vous reconnaissez ça là? Allez voir Gaétan Paquin. Let's go, man. Bon matin. Vous savez, quand je demande à quelqu'un de lire la parole de Dieu, c'est j'ai entendu un commentaire d'un homme qui travaillait pour la société biblique, Wolf White, pour ceux qui le connaissent. Puis quand il est venu nous visiter, il y a à peu près 2 ans, savez-vous ce qu'il a dit dans notre assemblée? Il dit, Michel, il dit, moi, il dit, je vois des assemblées partout dans le Canada. On ne lit plus la parole de Dieu en public. C'est fort, hein? Quelle bonne habitude de lire la parole de Dieu, même en public. Et vous savez que maintenant que j'ai enlevé mon coat, je n'enlèverai pas ma cravate, mais je vais aller chercher mon petit pointeur. On vient dépendant de ces petites babelles-là, hein? Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mon premier titre, c'était ça. Christ est ma vie. Et là, j'ai dit à moi-même, ouais, dire ça devant tout le monde, Christ est ma vie. C'est dangereux de dire ça. Non, mais tu sais, j'ai trouvé ce bonhomme-là, j'ai dit à moi-même, ça prend quelqu'un qui est fantasme. Christ est ma vie. Le pupitre est un endroit dangereux de nos jours. Le pupitre. La chair. Christ est ma vie. C'était mon premier titre. Et je voudrais qu'on plonge dans Philippiens pour les 2 prochaines semaines. Puis, la semaine prochaine, c'est Christ est mon modèle. Naturellement, je ne mettrai pas ça, mais mettre Christ est notre modèle. Christ est mon but. Je ne mettrai pas ça, mais mettre Christ est notre but. Et j'ai aussi d'autres thèmes qui disent Christ est ma toute suffisance. Mais je ne mettrai pas ça, là. Moi, mettre Christ est notre toute suffisance. Pourquoi je le fais de même? Parce que, à quelque part, si ce n'est pas personnalisé ce qu'on entend de la parole de Dieu, si ce n'est pas quelque chose pour moi, peut-être me dire, ben, c'est pour les autres. Tout le monde est beau, tout le monde est correct, tout le monde se peigne sur le côté gauche, tout le monde aussi, tout le monde a ça. On est tous comme ça, on est tous comme ci, on est tous comme ça. Les superlatifs, et puis il n'y a plus rien de personnel. Mais j'aimerais prendre ces deux semaines pour aller plonger, pas mal sûr que je ne les ferai pas toutes les quatre, là, mais au moins d'en faire deux, plonger dans ce merveilleux thème, ce cri, Christ est ma vie. Et je vous donne tout de suite là un devoir. Demain matin, en vous levant, regardez-vous dans le miroir. Puis dites ça. Christ est ma vie. À quelque part, là, c'est très personnel, ça. C'est vraiment personnel. Christ est ma vie. Vous savez, Philippiens est une super belle épître. Et si je serais fantasme, je mettrais la question, Christ est ma vie, et vous? Il faut mettre plus de piquant. Christ est ma vie, et vous? Les doigts, là. Mais si on y va avec une réflexion, Christ est ma vie, et vous? Qu'en pensez-vous? Est-ce que Christ est votre vie? Mais c'est un slogan, ça, Christ est ma vie. Ça veut dire quoi, ça, Christ est ma vie? Qu'est-ce que ça mange, ça? À quoi ça ressemble le lundi, le mardi, le mercredi? Christ est ma vie. J'ai entendu, je ne sais pas comment de prédication là-dessus, Piper, MacArthur, Gaston Racine, Doug a parlé là-dessus. J'ai déjà parlé là-dessus il y a à peu près 12 ans. Dee Carson a parlé là-dessus. Puis j'imagine que vous avez entendu des dizaines de messages là-dedans. Donc, je ne vous apprends rien de nouveau un matin. Mais je vais vous emmener dans une réflexion pratique. Avec nos grosses bibles usées en dessous du bras, là. Christ est ma vie. Peut-être un petit contexte. Paul, vers 62, deuxième voyage missionnaire, il a fondé une église à Philippe. Hein? Souvenez-vous du cri. « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? » Le geôlier crie. « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ta famille croit. » C'est vraiment merveilleux, une église. Et c'est une église qui est très, très, très personnelle à Paul. On voit 120 fois « je ». C'est personnel. C'est entre Paul et les premiers lecteurs du premier siècle. C'est aussi, il prend aussi des expressions une dizaine de fois, là, « frère, mes bien-aimés ». Puis on voit aussi que dans toute cette épître, on a la joie. On lit n'importe quel commentaire, ils vont tous vous dire ça. La joie, la joie, la joie. C'est quoi ça, la joie? Ça fait chatouiller en dessous des bras? Allez voir un stand-up comique? Le jour de paye? Non? Alors, Paul, lui, il veut nous emmener la joie. La joie dans le Seigneur, la joie dans les liens, la joie dans le service et la joie dans la toute-puissance de Dieu, Jésus-Christ. Vous voyez ce que je m'en vais avec ça, non? Une des seules églises qui a pris soin monétairement des besoins de l'apôtre Paul. Il y a une affection palpable lorsqu'on lit cela. Il y a l'Évangile qui est annoncé par des gens qui calomnient puis qui vont essayer de détruire l'apôtre Paul. Mais il est content. Il est en joie. Pourquoi? Parce que Christ est annoncé. Christ, c'est sa vie. Si Christ est annoncé, gloire à Dieu. Il ne se peigne pas sur le même côté que moi. Regarde, Christ est annoncé. Et à quelque part dans cette épître, lorsqu'on voit cette introduction dans le premier chapitre, qu'on regarde tout ça, puis on se dit, « Hey, c'est tout un combat, l'Évangile, ça? » Parce que vous remarquez le mot « Évangile »? L'Évangile, le progrès de l'Évangile. Et le verset 16, encore, il parle de la défense de l'Évangile. Il parle des esprits de dispute annonçant Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et des pensées qui me suscitent des afflictions, des tribulations dans mes liens. Mais il va dire, qu'importe, so what? Christ est ma vie. De toute manière, que ce soit pour l'apparence ou que ce soit pour... que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Comment que tu fais, toi, Paul? Es-tu un extraterrestre? Comment fais-tu, Paul, pour te réjouir dans l'affliction? Comment fais-tu, Paul, pour te réjouir lorsqu'on te calomnie, on médite toi? Comment fais-tu, Paul, dans toutes ces choses en prison, personne ne se soucie de toi. Il dit même un peu plus loin qu'il cherche quelqu'un qui peut connecter dans son âme, puis il n'en trouve pas du tout. Il est tout seul, isolé. Et il y a un serviteur de Dieu qui vient lui apporter des choses. Vraiment, aucune circonstance, favorable pour être joyeux. Moi, ça me dit quoi, ça? Que si j'attends et si je dépends, et si j'ai des attentes que les circonstances vont m'apporter la joie, je fais fausse route. Bien sûr, il y a des situations plus à l'aise que d'autres. Et c'est pour cela qu'on voit que lui, son principal souci, ce n'est pas le fait qu'il est en prison, qu'il risque de se faire couper la tête. Ce n'est pas le fait qu'il n'a pas tout ce qu'il veut, parce qu'il sait se contenter dans l'abondance comme dans la disette. Il est soucieux, là. Son souci, là, c'est que Christ soit glorifié. Le reste n'a pas d'importance. Que Christ soit glorifié. Christ sera glorifié, soit par ma vie, soit par ma mort. Par ma vie ou par ma mort, Christ va être glorifié. C'est un gars qui n'a rien qu'un one-man track. Comment on dirait en français? Il n'a rien qu'une affaire, qui vise rien qu'une affaire, la gloire de Dieu. Avant de perdre sa joie en Christ, il regarde la gloire de Dieu. Où est la gloire de Dieu? Dans mes gestes, dans mes paroles, dans mon comportement, la manière que je me plains, que je suis en prison. Au lieu d'entendre une lettre de lamentation, on entend une lettre de joie. Mais quoi ton truc? Y a-tu un truc? C'est sûr là, qu'il y a un contexte historique, là. Mais cette fameuse déclaration, « Car Christ est ma vie. » Si Christ n'est pas notre vie, donc je ne suis pas soucieux de glorifier Dieu et je n'ai pas une perspective éternelle de ma vie. J'ai une perspective temporelle de ma vie. Et puis il rajoute, « La mort m'est un gain. » Pourquoi? C'est rare, hein, qu'on entend quelqu'un dire « Mourir, ça va être un plus. » Savez-vous pourquoi il dit ça? Il y a une perspective éternelle de sa vie. Il n'est pas avec la moyenne statistique, 76 ans pour les femmes, 84 ans, 82 ans pour les hommes, 84 les robustes. Il n'y a pas de statistique dans la tête. Lui, là, il est ressuscité avec Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Christ est sa vie, Christ est notre vie. Donc, nous avons une perspective éternelle de tout ce que nous vivons, et non pas temporelle. Quelle phrase! Dans ce contexte de prison, menace de mort, l'apôtre a mis sa confiance en Dieu seul. Dieu agit. Dieu est vivant. Et l'apôtre est capable de dire cela avec sincérité. En fin de compte, je me disais, OK, supposons qu'on jamme là pour qu'on n'ait pas tout le reste de l'histoire. Là. Tu lis juste ça, là. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Je me dis à moi-même, là, Paul, il va donner une recommandation. Il donne une de ses recommandations au verset 26, 27, qui démontre son amour pour cette église de Philippe qu'il a fondée, qui démontre son souci d'apporter au peuple de Dieu l'essence même de la puissance de l'Évangile. Avec tout ce qu'il est en train de vivre, que ce soit qu'il retourne les voir vivants, ou qu'il ne les voit plus du tout. Peu importe. Il veut entendre la réputation de cette Église-là. Cette Église qu'il aime. Et la réputation de cette Église, il veut que ce soit une réputation de cette Église qui glorifie Dieu, et eux aussi peuvent dire, ils vont dire, Christ est notre vie. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, que j'entende dire de vous que vous demeurez ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme, la foi de l'Évangile, pour la foi de l'Évangile. Chers amis, une recommandation à cette Église, vers la fin de sa vie, dans un cas particulier, n'est pas unique à Paul. Parce qu'il va écrire aussi aux Philippiens. Il va dire, à Éphésiens, c'est-à-dire, il va dire, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Digne, c'est les lettres qu'on appelle de captivité, n'est-ce pas? Il va aussi nous le dire dans Colossiens, « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, il lui est entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes et de bonnes œuvres. » De toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Vous savez, Paul aux Thessaloniciens va le dire aussi, marchez d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume, à sa gloire. Donc, à quelque part, il est en train de nous dire quelque chose. Puis si les lettres, ils sautent, c'est parce que c'est important. Premier énoncé. Pas de dignité s'il n'y a pas de vie conforme à Christ. Dans nos paroles, nos actions, nos décisions, s'ils ne sont pas conformes à Christ, ils déplaisent à Dieu. Christ est Dieu incarné. Christ est celui qui nous enseigne, qui nous forme, qui nous tient, qui nous dirige. Christ est celui qui nous donne, dans sa parole, l'essence même de tout ce que nous devons faire et dire et décider selon la gloire de Dieu. Parce que notre but, c'est glorifier Dieu. Notre but, c'est que la réputation de l'Assemblée soit une gloire pour Dieu. Mais s'il n'y a pas de dignité et s'il n'y a pas de vie conforme à Dieu, s'il n'y a pas de dignité. Dignement de l'Évangile, cet angélia, cette bonne nouvelle. Ça me tentait de mettre les 7 points de l'Évangile là, mais j'ai résisté. Je présume que vous connaissez l'Évangile qui part avec la gravité et l'étendue du péché, qui nous amène tous au pied de la croix à Golgotha, qui nous fait réaliser que Christ a pris mes péchés, vos péchés, pour en faire ses péchés. Et il a pris sa justice pour en faire notre justice. Et maintenant, nous marchons en nouveauté de vie sous la seigneurie de Jésus-Christ, où ce que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, où cette vaine manière de vivre qu'on a héritée de nos pères, cette nature déchue, ce n'est plus elle qui nous conduit dans notre vie, mais c'est l'Esprit Saint qui habite en nous. On a été rachetés de cette vaine manière de vivre qu'on a héritée de nos pères, Pierre nous dit. Lorsqu'on regarde Paul dans sa vie, qu'on disait de lui, « Ah, Paul, tu es sévère dans tes lettres, mais quand tu es avec les frères, tu as l'air de pas grand-chose. » Il y avait ces judaïsants qui passaient en arrière de l'apôtre Paul qui voulaient faire circoncire les non-juifs. Ils voulaient distorsionner l'Évangile. Paul met les pieds à terre. Paul, cet apôtre qui a semé là où les autres n'avaient pas semé, prêché Christ où les autres n'avaient pas prêché Christ. Paul, qui a repris Pierre, qui était une pierre d'échappement pour prendre avance, qui judaïsait avec les Juifs quand il a vu qu'ils étaient contre les chrétiens non circoncis. Paul, cet homme battu, jeté en prison, cet homme qui n'a fait aucun cas de sa vie, qui a pu dire « Christ est sa vie ». Il a pu affirmer que Christ est sa vie. Il a pu vivre sa vie et démontrer que Christ est sa vie. Regardez la belle exhortation de cette Église qu'il aime tellement. Même esprit, combattant d'une même âme, sans se laisser effrayer. La foi de l'Évangile. Je voudrais vous suggérer, c'est « Je de toi » aussi, la foi transmise au sein une fois pour toutes, le corps de doctrine, non pas la foi subjective là, que vous avez, mais objective. Demeurez ferme dans ça, le corps doctrinal, l'autorité de Dieu. Demeurez ferme. Lâchez pas. Si ce n'est pas l'autorité de Dieu, ça, vous vous faites couper l'arbre en dessous du pied. Il n'y a plus d'arbre. Il y a juste de la boîte. Et Paul rappelle à cette Église qu'il aime tellement. Allez-y avec le même esprit, la même âme, sans vous effrayer par les adversaires. Et la peur des adversaires démontre leur culpabilité. Parce que l'être humain a besoin de venir à la croix, a besoin d'aller à Golgotha, accepter Christ et par la foi seule, dans le sacrifice seul de Jésus-Christ, devenir enfant de Dieu. Il devient une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées, toutes choses sont de nouvelles. Tout le monde se dit quand je dis ça, « Ah, Michel, tu dis ça souvent. » Nouvelle créature. Ça veut dire quoi dans ma vie, ça? C'est que lundi matin, quand je me lève, là, je ne me comporte plus comme quand j'étais un païen. Parce que ma vie a été complètement transformée. Je n'ai pas rien qu'accepté un sauveur qui signe une carte. J'ai accepté un maître, un seigneur. Et ma vie est sous la seigneurie de Jésus-Christ. Christ est ma vie. Que peut me faire un homme? Absolument rien. J'ai rien. Vous ne pouvez rien me faire. C'est ce que Paul disait. On a tout. On n'a rien. On a tout. En Christ. Une autre belle expression qui est la même. Hein? J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. En enemoi Christos. Ça, c'est un débat de... Mais le contexte, D.A. Carson en parle là-dessus. Je l'ai pris là. C'est intéressant. C'est pas locatif. C'est pas locatif. C'est pas locatif. C'est... Oui, il est en moi, mais il est en train de marcher au travers de moi. Puis ça va avec le reste, parce qu'il va le dire, « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Si je vis maintenant dans ma chair, je vis la vie de Christ sur la terre. » D.A. Carson dit, c'est la grande échange. Christ a vécu ma mort, à la croix à Golgotha, et moi, je vis sa vie dans ma chair. Et le combat spirituel, vous savez tous, Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellé. Combattez le bon combat. Rejetez tout fardeau et tout péché qui si facilement nous enveloppe. Ayant le regard sur Jésus, l'arché de notre foi, l'auteur de notre foi, celui qui l'amène à la perfection. Ayant les regards sur la fin, non pas de la vie, mais la fin de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans notre vie, parce qu'on tombe dans l'éternité. Puis il donne l'exemple de Jésus, lui qui a subi l'ignominie. A regardé tout ça, et puis il voyait la joie de l'Église dans la souffrance. Quelle belle image. L'apôtre Paul va nous dire, en fin de compte, quand il dit « Christ est ma vie », il est en train de dire, « Moi, là, ma vie, là, ma priorité, ma manière de faire les choses, la manière de parler, la manière d'agir, mes décisions que je vais prendre comme si c'est Jésus qui les prenait à ma place. » Là, il dit, « Michel, t'es simpliste pas mal, là. » Ça, j'ai pensé, hein? Dis-moi-tu dire ça? Malheur à moi dans ma vie personnelle. Je vous le dis, là, ben honnête. Comme si je ne ferais pas là, avant, là. Je le suis. Mais je révèle des couches. Je vais aller un peu plus profond dans la couche révélée. Tout, je peux identifier dans ma tête, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous autres aussi, des décisions que vous avez prises dans votre vie, que vous n'avez même pas consulté vraiment ce que Dieu en disait. Ça vous est arrivé, vous autres aussi? Ouf, content. Au moins, il y en a deux, trois qui ont fait... mais le pire là-dedans, là, tu t'aperçois de ça trop tard. Tu arrives d'abord, tu te dis, comment tu fais ça? Ça dérape. Tu sais, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu t'identifies, puis tu dis, ouais, mais avoir regardé dans la parole un peu plus, là, avoir regardé le texte biblique un peu plus, là, au lieu de me faire emporter par toutes sortes de choses, peut-être j'aurais été un peu plus sage dans telle décision. Il y a plusieurs décisions de même dans ma vie. Ça, c'est parole vivante, c'est le même verset, là, Galates 2. Lui, c'est un vrai commentaire, parole vivante, hein, ceux qui écoutent ça, Alfred Cuen, là. sais, c'est une paraphrase, ça, c'est pas une vraie traduction. Ben, regardez comment est-ce qu'il essaie de faire sortir tout le grec en arrière. Si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, c'est le Christ qui vit, c'est le Christ vivant qui vit, qui... Ouais, ah ouais, c'est, dites-le, je fais exprès pour me tromper. Ouais, ah ouais, ah ouais. Comment c'est tout ce qui est en jaune? Et c'est exactement ça ce que le texte dit. Reproduire la vie de Jésus en moi. C'est un défi, ça, hein? C'est pas rien qu'un défi dimanche matin à la table du Seigneur ici, là, ou dans une réunion, là. C'est un défi dans la vraie vie, ça. Puis regardez, il continue. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. C'est long, hein? Le verset est plus long. On a deux phrases même. C'est rien que ça de long, mais ça l'exprime. Pourquoi que Paul, la tête haute, peut dire « Christ est ma vie » Et ça l'explique aussi pourquoi on peut tous dire « Christ est notre vie ». Nous sommes là pour glorifier Jésus-Christ. Nous sommes là pour honorer Dieu. Nous sommes là pour marcher d'une manière digne de la repentance et produire des œuvres dignes de la repentance, avoir des comportements dignes de l'Évangile. Parce que c'est Christ qui vit au travers nous. Oui, oui, je le sais. Il y a la vieille nature. Il y a la lutte contre le péché, là, qu'on ne mentionne pas dans le cachet, dans le garde-robe, qui vient toujours cogner à notre porte. Je le sais, c'est tout là, ça. Ça s'appelle le combat spirituel. Rapidement. Ça vient du livre « Comment les gens changent vraiment ». Je l'ai emmené, je voulais vous le montrer. Je vous le conseille. Paul David Tripp, un de mes auteurs favoris, puis Timothy Lane, qui a écrit ça. La vie, là, c'est comme un soleil de chaleur. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses qui arrivent. Tout le temps. Ça n'existe pas juste des bonnes choses dans la vie. Il arrive des mauvaises choses et des bonnes choses. Il arrive des belles circonstances et des mauvaises circonstances. Il arrive des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. C'est la vie. Bienvenue sur la planète Terre qui a crucifié Jésus-Christ. Cette planète Terre qui est livrée à son péché. Que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est sonner après des casseroles. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Là, je sais qui regarde les nouvelles, là. On a été rachetés. Je disais à un frère tout à l'heure, Martin, es-tu encore là? Ça va. Je disais, as-tu déjà été au dépanneur? Puis il dit, je viens faire la rédemption d'une pinte de lait. Non, non. J'espère que vous savez tout ce que ça veut dire. Il y a la croix. Au travers de cette chaleur-là, il y a la puissance de le Saint-Esprit, la puissance de la vraie Évangile, de la Seigneurie de Christ, notre Sauveur et Maître. Et dans cette chaleur, il y a des choses qui se passent, il y a des circonstances qui viennent, d'un côté comme dans l'autre. Il y a des fruits qui viennent, des bons fruits qui glorifient Dieu, puis des mauvais fruits qui déshonorent le Seigneur. C'est quoi la solution? Réaction aimante, comment réagir. C'est un côté de Dieu, la repentance avec foi. Que voulez-vous? Toutes ces questions qui nous amènent à décider par la grâce de Dieu, avec la sagesse de la parole de Dieu, Seigneur, que dois-je faire? Dans ces chaleurs de bons et de mauvaises choses qui m'arrivent. Voulez-vous que je vous dise, la solution est la même pour les deux côtés? C'est la croix. Demeurez sous la croix de Christ. demeurez aux pieds de votre maître et votre sauveur. C'est là qu'est la solution. Et lorsqu'on demeure sous la croix, le fruit qui honore Dieu, qui glorifie Dieu va venir. S'humilier sous la puissante main de Dieu, car lui-même prendra soin de vous. Une repentance. Qu'est-ce que ça veut dire? Cohen, il a écrit une chanson, puis les filles répètent en arrière, en anglais. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, la repentance? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, la repentance? Puis lui, il chante son affaire, Future, I've seen the future. Et Cohen, là, c'est un gars tourmenté. C'est un bouddhiste. Il est moins un bouddhiste, là, mais un juif. Il dit dans sa chanson, il dit, « Moi, je suis un petit juif qui écrit la Bible. » Il est tourmenté, il cherche. Qu'est-ce que ça veut dire, la repentance? C'est une brûlure de l'âme qui nous amène au pied de la croix. La repentance, c'est de virer de bord. Complètement. Changer d'attitude, changer de langage, changer d'action, de direction. Et c'est la repentance qui nous amène à la croix. On ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. Ce qu'on sème, on le récolte. Galates 6, 7. Le but ultime de notre vie est la gloire de Dieu. Moi, je suis convaincu que Paul pouvait dire ça. Soit dans Galates, ou soit dans Philippiens, Christ est ma vie. Parce qu'il y avait juste une idée en tête, glorifier Dieu. Si donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous, quoi que vous fassiez, quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est un superlatif, hein? Tout pour la gloire de Dieu. Posons-nous la question, suis-je en train de glorifier Dieu? Lorsque je fais ceci ou je dis cela, est-ce que ça glorifie Dieu? Ken Sand, qui a écrit le livre Peacemaker Ministry, suivait un cours en 97 aux États-Unis. Il dit ceci, plus vous dépendez de sa grâce, de sa sagesse et de sa puissance, plus vous imitez le Seigneur Jésus. Ça s'appelle marcher par la foi. Croire Dieu. Point de croire en Dieu, c'est croire ce que Dieu dit. Je témoigne à un monsieur qui était un témoin de Jéhovah. Il était un ennemi, un témoin de Jéhovah. Mercredi, Éric était avec moi pour donner son témoignage. Puis, c'est ce qu'on lui a dit à fin de compte. Ils ont dit, il était comme confus, là. Là, il ballottait. Sébastien, tu dis ça? Mais je vais lui dire, j'en ai parlé, c'est pas grave. Savez-vous ce que j'ai dit? J'ai dit, écoute, le jour que tu vas croire ce que tu lis, tu vas être correct. La paix va venir dans ton cœur. Le jour que tu crois ce que la Bible dit, ton cœur change. Tes priorités changent. Ton attitude change. Puis regardez le Seigneur. Dans le jardin, qu'est-ce qu'il dit? Toutefois que ma volonté ne se fasse pas. Mais la tienne. Avez-vous déjà dit ça au Seigneur, vous autres? Seigneur, je te prie, Seigneur, là, fais que ma volonté ne se fasse pas, mais aide-moi. Ben non, on ne prie pas de même, nous autres. Seigneur, je suis convaincu. Seigneur, c'est moi, ma volonté à moi, il faut qu'elle arrive ici, là, puis c'est ma volonté, puis c'est ma volonté. Pas la volonté du Seigneur, la volonté de Dieu. Christ est notre vie. Regardez bien, on va prier pour terminer. On n'a peut-être pas la même heure, moi puis Will. J'ai dit à Will, je ne veux pas prêcher trop longtemps matin. J'essaie de me discipliner à 35 minutes. Je pense que vous le savez, là, j'ai dépassé. Oui, il dit, c'est pas grave. Il dit, moi, je finis à moins un quart en bas. Puis il dit, là, c'est en même temps de chanter. Il dit, mon prophète de la musique. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de musique. On va le faire à capelle, là. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est pas un chant qu'on fait. Ah, là, Will, il s'en vient en courant. Will, je t'ai dénoncé. Viens-t'en. On est bien timé. On est bien timé. Parce que c'est plus qu'une toune. J'aime la musique aussi, là. Moi, ce qui me fait peur dans les tounes, là, c'est qu'on oublie les vraies paroles. Puis moi, je vous propose ça comme une prière. Pas un chant qu'on chante, qu'on pense à rien, là. Puis je veux pas vous frustrer. Ceux qui veulent rester assis, restez assis. Je voudrais vous inviter à vous lever debout devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu vous voit. Puis je voudrais dire, bien plus que ça, Dieu voit votre cœur. Dieu voit votre cœur.